Info sur VOA Afrique.
Washington, la voix de l'Amérique, Amigro Didier pour cette édition de Carrefour Science et Santé, un programme que je vous invite à suivre également sur le réseau Afrique Santé de la VOA. Quelques titres tout d'abord. Des chercheurs canadiens affirment avoir identifié un nouveau mécanisme pour forcer le virus du sida à exposer ses parties vulnérables et ainsi permettre aux cellules du système immunitaire de tuer les cellules infectées.
Donc grosso modo, ce qui se produit, c'est que cette clé que les virus exposent à la surface de la cellule, qu'on nomme les glycoprotéines de l'enveloppe, lorsqu'ils s'interagissent avec CD4, c'est comme si la boîte hermétique s'ouvre. Puis là, tout à coup, on expose, on dévoile des composantes que les virus aimeraient garder cachées.
On suivra les explications d'André Finzi, professeur à l'Université de Montréal, qui a dirigé les travaux. Un stérilisateur portable au gaz conçu par un Américain peut être utilisé sans eau ni électricité et pourrait aider à révolutionner la chirurgie en Afrique.
Cette petite mallette, qui est une toute petite mallette qui fait la taille d'un beauty case, et à l'intérieur, vous y mettez une petite capsule. C'est cette petite capsule de NO2, d'azote, que vous intégrez à l'intérieur et qui stérilise en une heure tous les produits et tous les outils à l'intérieur.
Odile Prévost, porte-parole d'Anywhere, nous en dira davantage. Et le Viagra peut aider à enrayer le paludisme. Personne à ce jour n'a encore réussi à percer les mystères du virus de l'immunodéficience humaine, le VIH. Mais voilà qu'une équipe de chercheurs canadiens affiliés au Centre de recherche du Centre hospitalier de l'Université de Montréal affirme avoir identifié un nouveau mécanisme, une sorte d'ouvre-boîte en quelque sorte, pour forcer le virus à exposer ses parties vulnérables et ainsi permettre aux cellules du système immunitaire de tuer les cellules infectées. On écoute André Finzi, professeur à l'Université de Montréal, qui a dirigé les travaux.
Le VIH, pour se répliquer, il a bien compris qu'il doit se protéger et cacher ses parties susceptibles d'être reconnues par les systèmes immunitaires. Le VIH, il sait très bien qu'il est en train d'évoluer chez la personne infectée dans un environnement qui est hostile. Et donc, il essaye de se protéger. Il utilise une sorte de bouclier. Et donc, il y a une partie du VIH, c'est la clé qu'il utilise pour entrer dans la cellule. Ça s'appelle les glycoprotéines de l'enveloppe. Et donc, ces glycoprotéines d'enveloppe, elles sont à la surface des particules virales, elles sont aussi à la surface des cellules que les virus infectent. Or, le VIH, ce qu'il veut, c'est cacher un maximum. Il ne veut pas que ces glycoprotéines d'enveloppe soient bien reconnues. Et donc, c'est pour ça qu'on dit que c'est comme une boîte hermétique, parce qu'il essaie vraiment de rester tout petit,
oui,
et exposer le moins possible pour ne pas être reconnu par les systèmes immunitaires.
Et malgré cela, votre équipe a découvert un nouveau mécanisme, vous le qualifiez de sorte d'ouvre-boîte, qui force le virus à exposer ses parties vulnérables.
Effectivement, donc depuis déjà quelques années, ce que nous avons montré ici à l'Université de Montréal et au CHUM, où je travaille, c'est que le VIH, pour essayer de se cacher, utilise deux petites protéines qui s'appellent NEF et VPU. Et ces protéines-là, ce qu'ils font, c'est essayer d'enlever du CD4 à la surface de la cellule infectée. Donc c'est quoi CD4? CD4, c'est la protéine que les virus utilisent pour entrer dans la cellule. Donc grosso modo, ce qui se produit, c'est que cette clé que les virus exposent à la surface de la cellule, qu'on nomme les glycoprotéines de l'enveloppe, lorsqu'ils s'interagissent avec CD4, c'est comme si la boîte hermétique s'ouvre. Puis là, tout à coup, on expose, on dévoile des composantes que les virus aimeraient garder cachées. Et donc, c'est pour ça que les virus ont mis énormément d'énergie à développer quelque chose, une stratégie assez complexe, pour enlever du CD4 à la surface. Donc, une fois que au laboratoire, on s'est aperçu que le VIH mettait énormément d'énergie à enlever ces CD4 de la surface pour se cacher, on s'est dit, mais si on lui donnait du CD4 sous une autre forme, des petites molécules qui ressemblent à du CD4, ça ne pourrait pas fonctionner comme un ouvre-boîte. Et du coup, le virus ne le voit pas venir. On lui donne une petite molécule qui ferait plus ou moins la même chose que CD4. Et donc, ces glycoprotéines d'enveloppe qui se trouvent à la surface de la cellule infectée, elles vont s'ouvrir. Et si elles s'ouvrent, elles s'exposent des parties que le virus voulait cacher. Et ce que nous avons démontré au laboratoire, c'est lorsqu'on ouvre ces glycoprotéines d'enveloppe, des anticorps qui sont normalement générés chez des patients infectés ou qui sont facilement générés par des immunogènes, donc par des vaccins potentiels, sont capables d'aider l'enveloppe à la surface des cellules infectées et ils sont capables de recruter des cellules qu'on appelle tueuses. En anglais, le mot ce serait natural killer. C'est des cellules qui sont capables de reconnaître des anticorps à la surface des cellules infectées et de tuer la cellule infectée.
Et donc, à terme, ça peut mener non seulement à des traitements, mais peut-être même à un vaccin qui empêcherait la transmission du virus?
Effectivement, c'est l'idée. Je pense que cette découverte pourrait s'appliquer en deux étapes. Et bien, d'un côté prophylactique, donc préventif, on sait que pour générer ce type d'anticorps capables de reconnaître l'enveloppe lorsque l'enveloppe est ouverte, ces anticorps, on est capable de les générer avec les immunogènes que nous avons au laboratoire. Donc, c'est des anticorps qui sont faciles à générer. On parle d'un vaccin, par contre, à deux composants dans lesquels il faudrait aussi fournir ces petites molécules qui fonctionneraient comme du brebois. Donc, lorsque les virus essayeraient de venir vers un nouvel hôte, une nouvelle personne, si on donnait l'ouvre-boîte en combination avec ces vaccins-là, les anticorps seraient en place pour fonctionner une fois qu'on ouvrirait l'enveloppe. D'un autre côté, on sait très bien présentement que malgré les succès que la thérapie antirétrovirale a, c'est capable de diminuer la charge virale de façon dramatique, ce qui est très bien, ce qui se traduit par une augmentation de l'espérance de vie des personnes infectées. Si jamais le patient arrête le traitement, la charge virale revient. Et donc, ça c'est un problème parce que le virus se cache à l'intérieur de certaines cellules et il reste à l'état dormant. On appelle ça les réservoirs viraux. Et donc, depuis plusieurs années, maintenant, on commence à parler d'essayer de trouver des stratégies pour éventuellement un jour éradiquer le virus. Ça, c'est le rêve de tout le monde. C'est que si jamais quelqu'un est infecté, ultimement, le guérir. Mais pour faire ça, les chercheurs essaient de trouver ce qu'on appelle une stratégie « shock and kill ». Donc, il faudrait, pendant que la personne est sous traitement antirétroviral, donc il n'y a pas de charge virale, on aimerait réveiller ces cellules dormantes. Et si jamais on est capable de les réveiller, il faudrait les tuer. Et donc, nous autres, on propose que l'approche de l'ouvre-boîte permettrait, si jamais on est capable de réveiller ces cellules dormantes dans lesquelles le virus est dormant, mais on pourrait fournir cette petite molécule, exposer les parties que le virus essaye de cacher, puis à ce moment-là, les anticorps qui sont déjà présents chez le patient infecté, ça on l'a montré, ils seraient capables de tuer la cellule infectée.
Alors, il existe plusieurs variantes du VIH. Vos travaux ont porté sur le VIH1.
Effectivement, vous soulevez un excellent point. Donc le VIH1, c'est le VIH qui est responsable pour la pandémie, la grande pandémie, le plus grand nombre d'infections dans le monde. Mais il y a des travaux en cours au laboratoire pour voir quelle est l'efficacité de cette molécule, aussi avec le VIH de type 2. Je veux souligner le fait qu'à date, nous avons fait des expériences en laboratoire in vitro, aussi ex vivo, mais nous n'avons pas encore fait des travaux in vivo, donc chez les animaux, chez les singes pour le moment.
Donc, quelle sera votre prochaine étape?
Donc, la prochaine étape est effectivement essayer d'amener cette petite molécule et ses approches chez le singe, dans des modèles animaux, pour voir s'il y a des toxicités ou pas des toxicités reliées aux molécules. Et par la suite, voir si notre hypothèse tient le coup et si on peut effectivement diminuer les réservoirs viraux chez les patients infectés. Et il y a aussi des études qui sont en cours pour essayer de voir si cette petite molécule, en conjonction avec un vaccin, serait capable de bloquer la transmission chez les singes. On veut vraiment travailler, évidemment, chez les singes avant de penser à aller plus loin dans des études cliniques plus tard.
On écoutait André Finzi, professeur à l'Université de Montréal. Ses travaux ont été publiés dans la revue Proceedings of the National Academy of Science. Washington, la voix de l'Amérique, un micro dédié avec vous pour Carrefour Science et Santé. Le Viagra, la petite pilule bleue qui peut soigner les troubles de l'érection, pourrait également aider à enrayer la transmission du parasite du paludisme. En augmentant la rigidité des globules rouges infectés par l'agent du paludisme, le Viagra favorise leur élimination de la circulation sanguine et pourrait donc réduire la transmission du parasite de l'homme aux moustiques, affirment des chercheurs du CNRS, de l'INSERM, de l'Université Paris-Descartes et de l'Institut Pasteur, qui ont travaillé en collaboration avec une équipe de la London School of Tropical Medicine and Hygiene. le Plasmodium falciparum, le parasite responsable du paludisme, se transmet entre autres de l'homme au moustique lors d'une piqûre. Alors en bloquant cette transmission, on évite la dissémination du parasite dans la population. Je vous propose de suivre les explications de Catherine Lavazek, chercheuse à l'Institut Cochin de l'INSERM et du CNRS en France et auteure de l'étude.
Donc le Viagra réginifie les globules rouges qui sont infectés par le parasite du paludisme. Et l'idée est de bloquer la circulation de ces globules rouges infectés rigides à travers la rate. Comme vous le savez, la rate humaine filtre le sang et élimine de la circulation tous les globules rouges qui sont trop rigides, comme les globules rouges qui sont trop vieux par exemple. Et ce que nous avons trouvé, c'est que la molécule du Viagra a le potentiel de rigidifier spécifiquement ces globules rouges infectés. Donc l'idée, ce serait de pouvoir éliminer ces globules rouges infectés de la circulation sanguine, et ils ne seront donc plus accessibles à une piqûre de moustique.
Elle serait alors interceptée par la rate et ça éviterait la dissémination du parasite à d'autres personnes.
Exactement.
Il faudra modifier le Viagra pour ne préserver que les propriétés qui rendent les globules rouges plus rigides et non pas ces autres propriétés.
Oui, ce serait vraiment l'idéal. En fait, ce serait de trouver une molécule voisine du Viagra qui serait spécifique uniquement du parasite et qui n'aurait pas les effets sur l'érection.
On pourrait mettre au point éventuellement un médicament que les hommes, tout comme les femmes, pourraient prendre.
Oui, exactement. C'est l'idée du projet.
Alors, quelle va être votre prochaine étape maintenant ?
Là, on a plusieurs étapes pour le futur. Donc, tout d'abord, on essaye de comprendre le mécanisme plus en détail, savoir exactement quelles sont les protéines parasitaires qui sont modifiées par la molécule du Viagra. On essaye également de trouver des molécules voisines qui seraient donc spécifiques du parasite. Et sinon, la prochaine étape, ce sera de faire une étude in vivo chez l'homme, puisque pour l'instant, nos résultats n'ont été obtenus qu'in vitro au laboratoire sur un modèle qui mime la filtration de la rate humaine.
Mais il n'y a pas de raison de croire qu'il pourrait y avoir des effets négatifs sur l'être humain.
Non, pour l'instant, la molécule du Viagra n'a pas d'effet secondaire dramatique. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle est commercialisée et très utilisée. Donc à part les effets sur l'érection qu'on aimerait éviter, il n'y a pas d'effet négatif.
Qu'est-ce qui vous a donné l'idée de regarder? Parce qu'on se dit, moi qui n'y connais rien, je me suis dit, mais comment est-ce qu'ils sont arrivés à penser que le Viagra pourrait marcher sur les globules rouges, etc.
Alors en fait, au laboratoire, on s'intéresse au mécanisme qui permet de réguler la déformabilité, la rigidité du globule rouge infecté, donc régulé par le parasite. Et on a identifié un mécanisme, c'est une voie de signalisation qui s'appelle la voie de l'AMP cyclique. Donc l'AMP cyclique, c'est un second messager, c'est une petite molécule qui est à l'intérieur de la cellule. Et c'est un mécanisme qui est très conservé à travers les espèces et qui intervient dans de nombreuses fonctions biologiques. Et une fois qu'on a identifié ce mécanisme, on a cherché des inhibiteurs qui pouvaient interférer avec cette voie de signalisation. Et il se trouve que parmi ces inhibiteurs, il y a la molécule Viagra. Donc parmi d'autres molécules, on a testé celle-ci et elle marchait très bien.
Et est-ce que vous avez testé d'autres molécules ?
On a testé, dans l'article que nous avons publié, nous avons testé un autre inhibiteur de phosphodiestérase qui s'appelle le zaprinast, mais qui est utilisé uniquement en laboratoire, puisque, à ma connaissance, il avait été étudié comme un anticancéreux il y a quelques années, mais qui n'est jamais arrivé sur le marché pour ses effets toxiques.
Avez-vous quelque chose à ajouter ?
Je voudrais juste bien signaler que l'idée du projet, c'est vraiment d'enrayer la transmission et pas de soigner directement les malades. Donc il ne faut pas que les gens qui sont atteints du paludisme pensent pouvoir se soigner avec le Viagra. Donc il faut bien que ce soit clair dans la tête des gens. Par contre, c'est vraiment une approche qui pourrait permettre d'aider à l'élimination du paludisme, particulièrement dans les pays où on commence à pouvoir envisager de l'éliminer.
Ça enraye la transmission, mais ce n'est pas un traitement.
n'est pas un traitement, voilà. Ça permet en fait à quelqu'un qui a contracté le paludisme de ne plus être contagieux et de ne plus transmettre à un moustique qui pourra le transmettre à d'autres personnes. Ce qui est essentiel si on veut éliminer l'épidémie de paludisme dans une population. Oui.
Madame Catherine Lavazek, chercheuse à l'Institut Cochin de l'Inserm et du CNRS, elle était jointe en France. Les travaux des chercheurs ont été publiés dans la revue PLOS Pathogen. Ici Washington, vous suivez Carrefour Science et Santé sur VOA Afrique. Aujourd'hui, des millions de personnes en Afrique ont besoin d'une procédure chirurgicale. Alors que les urgentistes ou médecins ne disposent pas des infrastructures ou équipements les plus élémentaires. Ou alors, lorsqu'ils en disposent, le manque de dispositifs de désinfection et stérilisation peut rendre ces appareils mortels lorsqu'ils sont contaminés par un virus ou une bactérie. D'où l'intérêt porté aux stérilisateurs portables conçus par le docteur James Bernstein de la société Anywhere, dont la technologie de stérilisation au gaz a été adaptée dans une petite mallette portable. De faible coût, permettant d'être utilisée sans eau ni électricité, elle pourrait aider à effectuer des chirurgies dans les conditions les plus précaires. Je laisse Odile Prévost, porte-parole d'Anywhere, vous en dire plus.
Le docteur Bernstein est allé directement en Afrique et s'est rendu sur place pour voir ce dont les personnes avaient besoin. À la différence d'autres sociétés qui imposent souvent au continent africain ce qu'ils pensent être le meilleur produit pour eux, cette fois-ci, le docteur Bernstein a eu cette idée d'aller vers les personnes et les hôpitaux pour leur demander ce dont ils avaient besoin. Et ils se sont bien rendus compte que tous les autoclaves qu'ils avaient pour stériliser à la vapeur étaient souvent cassés et en fait qu'on ne stérilisait pas correctement les outils médicaux et que sans stérilisation, on avait évidemment des complications dans les opérations chirurgicales. Donc, c'est le point fort d'Anywhere, moi je trouve.
Le continent africain souffre de graves pénuries d'électricité et l'un des avantages d'Anywhere Portable Sterilizer, de ce stérilisateur portable, est qu'en fait, il s'agit d'une technologie de stérilisation au gaz.
Tout à fait, au gaz du NO2, donc c'est de l'azote. Et cette méthode de stérilisation peut être donc facile et transportable du continent américain jusqu'à l'Afrique, par avion, par mer ou par air. Donc on peut transporter cette petite mallette, qui est une toute petite mallette qui fait la taille d'un beauty case. Et à l'intérieur, vous y mettez une petite capsule. C'est cette petite capsule de NO2, d'azote, que vous intégrez à l'intérieur et qui stérilise en une heure tous les produits et tous les outils à l'intérieur, les outils chirurgicaux, les équipements. À la grande innovation aussi, je trouve, dans ce produit Anywhere, c'est que au lieu de juste stériliser tous les équipements chirurgicaux, vous avez aussi la possibilité de les stériliser dans une poche en plastique, qui est en fait une poche qui vient d'une société américaine qui s'appelle Tivec. Et donc on met les outils à l'intérieur de cette poche plastique, on ferme la mallette, on ferme la petite capsule, et tous les équipements pourront être stérilisés en une heure. Une fois que la mallette est ouverte, vous garderez les produits stérilisés sur des étagères dans un hôpital pendant au moins un an. Ce qui veut dire qu'à la différence de tout ce que l'on peut faire avec un autoclave et donc de pouvoir évidemment stériliser à la vapeur, de mettre tout ça dans du linge, que le linge peluche et porte des bactéries et que l'on ne peut pas garder trop longtemps, à la différence avec Anywhere, nous n'avons pas besoin d'eau. Vous n'avez pas besoin d'électricité. Et nous savons tous qu'en Afrique, le problème de l'électricité est un très, très grand fléau. Donc, par conséquent, nous voulons essayer aujourd'hui de promouvoir ce produit parce qu'on n'aura pas d'eau, pas d'électricité, mais on pourra soigner et sauver des vies.
On écoutait Odile Prévost, qui était jointe à Washington. Anywhere est en négociation, notamment avec la Banque mondiale, pour lever les fonds nécessaires à la vulgarisation de son stérilisateur portable. Ici Washington, Camille Grosdidier qui vous accompagne pour Carrefour Science et Santé. Si les insectes font partie intégrale du régime alimentaire de quelques 2 milliards d'êtres humains de par le monde, ce n'est pas encore le cas aux États-Unis. Mais voilà, un homme d'affaires reprend les choses en main. Salwa Jafari revient sur ses projets.
Alors voilà, tout est parti du fait que Charles Wilson, fondateur et PDG de Cricket Flour, en français la farine de criquet, souffrait de graves allergies, produits laitiers, gluten et certaines protéines qui lui étaient interdites. Du coup, il a recherché des substituts et il est tombé sur la farine de criquet. À l'époque, il faisait également ses études supérieures à l'université de l'Oregon, où il s'est affilié avec un autre étudiant, Omar Ellis, pour fonder sa société. Cricket Flour a vu le jour et aujourd'hui, les deux hommes ne tarissent pas sur les vertus de leur poudre de criquet. Il est plus riche en fer que les épinards et contient davantage de calcium que le lait, fait valoir M. Ellis. Et puis, au plan écologique, c'est le rêve. On produit la même quantité de protéines que celle d'un morceau de bœuf, mais en consommant un dixième des intrants et un sixième de l'eau. Étonnant, ajoute Ellis. Autre avantage, la farine de criquet n'a pas de goût. Donc, il est possible de l'intégrer à d'autres aliments sans modifier la saveur. À noter qu'il faut quand même broyer en moyenne près de 5000 criquets pour obtenir une livre de farine. Le produit reste donc relativement coûteux.
Vous suivez Carrefour Science et Santé avec Camille Grosdidier. Un espoir dans la lutte contre la fièvre hémorragique de la vallée du Rift. Un mécanisme potentiel de lutte contre les fièvres hémorragiques virales vient d'être découvert par des chercheurs du département de biochimie et de médecine moléculaire de l'Université de Montréal au Canada. Ces chercheurs ont identifié une protéine du virus de la fièvre de la vallée du Rift, la protéine virale NSS, qui imite un facteur de réparation de l'ADN humain. Ce mécanisme pourrait rendre le virus vulnérable à un traitement médicamenteux ou permettre de développer une souche virale atténuée en vue de la création d'un vaccin, expliquent les chercheurs. Norman Sear, chercheur postdoctoral et premier auteur de l'étude, revient sur cette découverte.
Cette protéine-là, elle est identifiée comme étant le facteur de virulence du virus. Puis, ça avait été déjà découvert que, dans le fond, cette protéine-là, qui s'appelle NSS, elle inhibait la transcription des gènes impliqués dans la réponse immunitaire chez l'hôte, donc chez l'humain ou chez les animaux de bétail aussi qui peuvent en être infectés. Mais personne ne savait vraiment quel était le mécanisme impliqué dans tout ça. Alors, nous, on a identifié sur cette protéine NSS un motif qu'on a appelé Oméga XAV, qui, en fait, nous avions précédemment identifié ce motif-là chez certains facteurs de transcription et de réparation de l'ADN. Puis, finalement, on a réalisé que NSS imitait ces facteurs pour prendre en otage la machinerie de transcription via ce motif et, ultimement, viendrait à détruire cette machinerie-là pour inhiber la réponse immunitaire de l'hôte, justement.
Cette protéine, en endiguant la réaction chimique pourrait enrayer l'infectiosité de la maladie?
Exactement. Donc, c'est un peu notre hypothèse qu'on a commencé à tester. Nous, on a vraiment étudié l'interaction de cette protéine NSS-là au niveau moléculaire et atomique par spectroscopie de résonance magnétique nucléaire. Puis, on a travaillé avec nos collaborateurs du National Center for Biodefense and Infectious Diseases de l'Université George Mason à Washington. Puis, eux, dans le fond, utilisent le virus en laboratoire parce qu'il faut de l'équipement bien spécialisé. Puis, ils ont modifié le motif que nous, on avait identifié en laboratoire pour créer un nouveau virus muté, mais de façon ciblée, pour voir quel allait être l'effet lorsqu'on allait infecter des cellules en laboratoire. Puis, ils ont découvert que, justement, ces cellules infectées par le nouveau virus était beaucoup moins affecté par la présence du virus. En réalité, le virus n'était pas vraiment virulent. Donc, c'est un peu les premiers pas vers l'identification et la caractérisation d'une nouvelle cible thérapeutique pour le virus de la fièvre de la vallée du Rift.
Alors, l'un des problèmes, c'est que ces virus de fièvre hémorragique connaissent des mutations.
Ça, c'est vraiment un problème. Puis on a encore dans les nouvelles là, récemment, il y a une nouvelle étude qui était sortie à propos d'Ebola, la dernière épidémie. On a découvert qu'il y a environ 440 nouvelles mutations qui avaient été identifiées dans le virus qui ont été créées juste pendant l'épidémie de 2014. Donc, c'est vraiment un problème dans les virus à fièvre hémorragique, qu'on appelle les virus à ARN, parce qu'ils ont une capacité de muter rapidement. Donc, d'essayer d'identifier une cible qui est essentielle à la virulence du virus, cette cible-là va être moins favorisée à muter, parce que le virus lui-même a besoin de cette protéine-là avec un certain motif pour bien infecter l'hôte. C'est là que ça devient intéressant.
Monsieur Norman Sear, chercheur postdoctoral à l'Université de Montréal au Canada. Voilà, ainsi s'achève cette édition de Carrefour Science et Santé de La Voix de l'Amérique. Au micro, Camille Grosdidier qui vous remercie de l'avoir suivi.